RTF Limoges, le magazine culturel.
Bonjour, bienvenue dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous sommes avec Alain Mercier, directeur général et artistique de l'Opéra de Limoges. Bonjour Alain Mercier.
Bonjour.
Tout d'abord, première question, pouvez-vous nous présenter un petit peu la saison 2024-2025 ?
Alors la saison 2024-2025, elle est déjà entamée. Hein. Dans les grandes lignes en fait de cette saison, il y a une grande thématique qui est consacrée au personnage de Carmen. Alors je dis bien volontairement au personnage de Carmen parce que contrairement à ce qu'on pourrait faire de façon plus peut-être plus évidente, on fait pas le grand opéra de Bizet, mais on fait plusieurs versions en fait de cet opéra dans des versions théâtre musical, dans une version peut-être plus opératique et puis aussi dans une version extérieure, je dirais, donc quelque chose qui a plus à voir avec le théâtre de rue, puis aussi dans une déclinaison musicale, symphonique, et puis aussi du côté de la danse. Donc l'objectif, c'était un peu de regarder, en fait, à chaque fois, ces projets sont portés par des femmes, tant en mise en scène que en réécriture musicale. Donc l'objectif, c'était de regarder ce personnage un peu différemment et de voir un peu en quoi il pourrait nous raconter aussi un peu en écho à notre société contemporaine, peut-être un peu autre chose que la liberté soi-disant féminine pour de choisir la mort en fait pour pouvoir l'exercer en fait et donc voilà, donc ça c'est un premier axe, un axe peut-être un peu encore sociétal aussi sur lequel on va raisonner, qui est la question de à la fois des assignations de genre et des bouleversements en fait, des hybridations de genre, on va dire ça comme ça. Donc une thématique qui s'appelle le grand dégenrement sur lequel on va revenir notamment dans le premier semestre 2025, et puis une thématique musicale aussi consacrée au compositeur français Francis Poulenc, avec plusieurs choses le concernant, à la fois de la musique de chambre, son double concerto pour piano, et puis un de ses opéras, Les Mamelles de Tirésias, qui est aussi un opéra qui questionne, lui aussi, tout à la fois la question du genre, mais aussi la question de la place des femmes, hein, puisque cet opéra a été écrit à partir d'une pièce écrite par Apollinaire en 1917, et qui était une pièce qui, à l'époque, a fait couler beaucoup d'encre et a fait quasiment scandale, et parce qu'elle questionnait, en fait, la place du patriarcat et la place des femmes, du coup, dans la société. Et puis, elle condamnait aussi, on était en pleine guerre, hein. Elle était assez virulente aussi contre la guerre et contre l'armée, en fait. Donc, voilà. Donc, on aura aussi cette thématique-là. Voilà, c'est à peu près les trois grandes lignes de fond de notre saison.
Du coup, est-ce que Carmen et la place de la femme ont été vraiment le cœur de l'axe commun de tous les spectacles, ou est-ce qu'il y a eu d'autres thématiques en jeu? Est-ce que la programmation a été pensée autour de ces axes-là, ou est-ce qu'il y a eu d'autres thématiques qui sont rentrées en compte?
Comme je vous le disais précédemment, pourquoi déjà avoir choisi l'axe de Carmen? D'abord parce que en 2025, c'est l'anniversaire de la mort de Bizet, donc on était un peu dans c'est l'année Bizet, donc on était un peu parti de cette première formation là. Et puis il s'est trouvé aussi que bon, qu'est-ce qui est le plus emblématique de Bizet? C'est quand même probablement Carmen, même s'il a fait plein d'autres choses très intéressantes par ailleurs, musicalement ou à l'opéra. Mais il y avait aussi l'idée qu'il se trouvait que on avait plusieurs projets en fait qui s'étaient un peu montés, qui étaient portés un peu différemment des projets d'opéra habituels, donc par la compagnie Sandrine Anglade, plutôt qui est quelqu'un qui travaille aussi bien au théâtre qu'à l'opéra, donc là on est dans une forme un peu de théâtre musical. Et puis il y avait cette relecture un peu plus opératique d'Alexandra Lacroix, qui est aussi artiste associée ici, et elle interroge est-ce que finalement cette histoire de Carmen, c'est pas d'abord l'histoire d'un féminicide, c'est-à-dire elle pose la question, est-ce que au fond tout n'était pas en germe comme on peut le voir parfois dans des affaires de féminicide, c'est-à-dire que on peut presque le détecter à l'avance en fait. Donc elle situe sa relecture de Carmen après la mort de Carmen. Donc Don José se retrouve en cour d'assises et on va devoir, la cour d'assises va devoir décider si ou juger si c'est bien un féminicide ou pas. Voilà. Donc ça, c'était effectivement ce qui nous avait un tout petit peu guidé. Et puis après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, il peut y avoir d'autres thématiques plus musicales comme celle de Poulenc. Et puis si on regarde la programmation danse, parce que on a une programmation danse importante ici en danse contemporaine à l'opéra. On tire aussi d'autres ficelles, hein. On tire toujours des ficelles thématiques autour des cultures urbaines, autour de la danse urbaine, autour du jeune public, aussi de l'émergence en fait d'un certain nombre de jeunes chorégraphes. Voilà, donc on retrouve tout ça en fait dans la saison.
Et du coup, vu que vous parlez aussi de l'émergence de jeunes, tout ça, je m'en demandais qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place ou qu'est-ce que vous avez mis en place pour attirer un public aussi qui est plus diversifié.
Le fait qu'on questionne la société et qu'on se contente pas de reprendre du répertoire tel qu'il était à une époque, je pense que déjà ça nous place un tout petit peu ailleurs. L'opéra développe un certain nombre d'actions en direction de la jeunesse, hein, que ce soit dans ses partenariats avec l'ensemble du secteur scolaire, qu'il soit primaire, secondaire ou même jusqu'aux étudiants. Donc un certain nombre d'actions qui sont menées avec les classes, avec les profs, avec l'université. Donc ça c'est, disons, pour le canal d'entrée. Et puis, mais la question de la fréquentation de nos maisons n'est pas qu'une question de jeunesse. C'est déjà une question de comment on fait face à un remplacement générationnel, puisqu'en fait, les générations qui étaient un peu historiquement intéressées à la musique classique et à l'opéra, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font ? Bah, elles vieillissent. Parfois, elles se replient depuis la crise Covid sur les captations d'opéra qu'on arrive à trouver maintenant facilement à la télévision ou sur l'ensemble des sites. Donc, cette génération-là, elle était historiquement intéressé. Pourquoi ? Parce que le cercle familial, le cercle amical était souvent un prescripteur, était un accompagnateur dans la fréquentation d'un lieu, dans la fréquentation de la musique classique, dans la fréquentation de l'opéra. Les nouvelles générations qui, je dirais, sont plutôt des générations qui est notre cœur de public maintenant entre 40 et 65 ans, ça a pris une place importante, plus de 40% de notre fréquentation, mais c'est un public un peu différent, c'est qui aborde les choses différemment, qui vient pas par culture familiale, pas par culture amicale, qui va y entrer par parfois des biais détournés, et donc qui a une fréquentation plus volatile, et puis qui a des attentes aussi un peu différentes de ce que c'est qu'un lieu comme le nôtre. Disons que le schéma un peu traditionnel de la représentation où, bon, on vient, on achète son billet, on rentre dans la salle, on assiste 2 heures ou 3 heures à un spectacle, on ressort. Tout ça est en train un peu de bouger, de changer. Et donc, ce que l'on fait, nous, ici, pour essayer de fidéliser, mais surtout dire aux gens, vous êtes venus une fois, ne vous arrêtez pas une première fréquentation, revenez et prenez confiance en vous. Vous pouvez, c'est pas parce que vous êtes pas spécialiste de musique classique ou d'opéra, vous pouvez revenir, donc on travaille beaucoup là-dessus. Et puis, on essaye aussi de rendre le lieu. Quand je dis le lieu, je devrais dire les lieux, parce que nous gérons deux lieux, hein, le Grand Théâtre ici en centre-ville et la Maison des Arts et de la Danse Jean Moulin à Beaubreuil. On essaye de rendre ces lieux par des usages différents, de plus en plus familier, de plus en plus quotidien. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de travailler, c'est pas tant le fait que les gens entrent pour acheter un billet, mais c'est que les gens entrent pour d'autres motifs. Et donc on développe de plus en plus des activités qui peuvent à la fois concerner tout un chacun, parce qu'on va commencer à offrir des services, parce que par exemple pour les étudiants, s'ils le souhaitent, on vient d'ouvrir à Jean Moulin un atelier Internet citoyen. Donc on a toute une plateforme avec une quinzaine de postes informatiques où vous pouvez venir travailler dans la journée. Mais on va aussi faire des ateliers sur la détection des fake news, sur comment se servir d'Internet, des réseaux sociaux, etc. avec les jeunes. Ça peut être ça. Ça peut être la distribution des repas avec le Secours Populaire pour les étudiants que nous faisons ici. Ça peut être des réunions d'entreprise, des événements où on accueille en fait parfois des conseils d'administration, des réunions des entreprises de Limoges à l'intérieur de la maison. Et tout ça, c'est l'occasion pour les gens de croiser, en fait, dans des temps différents, parfois d'être confronté à l'activité artistique qui est dans la maison, qui est en répétition, qui est en montage sur le plateau. Donc les gens n'entrent pas, en fait, pour acheter un billet, ils entrent parce qu'il y a un autre motif. Et donc, progressivement, on s'habitue que ces bâtiments sont pas simplement des lieux où on vient pour le spectacle. On peut y venir aussi pour plein d'autres choses. Donc, on travaille de plus en plus là-dessus, sur ce que je pourrais appeler l'hybridation des usages et aussi des temporalités d'ouverture, hein, de fête. Et je pense que plus ça va aller, plus on va aller dans cette direction-là, parce que c'est une façon aussi de renouveler la relation entre la population et nos institutions. Nous-mêmes ici, on a mis en place aussi une coopérative citoyenne de l'opéra, donc qui permet d'avoir des échanges et des débats sur les sujets de société qui nous traversent aussi bien la société en général que l'opéra en particulier, qui est une micro-société finalement, hein, regroupée dans un lieu pour travailler. Mais et donc on a institué ça l'année dernière, et ça aussi, ça crée en fait une nouvelle forme d'accessibilité à notre projet. puisque les personnes, par exemple, de la coopérative ont été tirées au sort, enfin, on a fait un tirage au sort sur la population. On envoyait 10 000 courriers dans un rayon de 20 km. Les gens ont reçu une lettre qui était un peu comme une lettre, comme quand vous êtes convié dans un jury d'assises, en fait. C'est-à-dire que vous avez été tiré au sort. Voilà, on souhaite vous associer à la réflexion avec nous. Votre parole va compter. Donc, on a eu 600 réponses, ce qui est déjà pas mal. Parmi ces 600 réponses, il y avait à peu près 70% des gens qui nous déclaraient n'avoir jamais fréquenté le lieu. Et ça, c'était très intéressant parce que ça veut dire que ça illustre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aurais des nouvelles générations, qui sont plutôt les générations cadres, classe moyenne, un peu diplômées, avec des enfants en bas âge, qui habitent plutôt l'agglo suburbaine que le centre-ville. Pour certaines, en tout cas celles qui nous ont répondu, on est un peu dans une proportion inversée de la fréquentation habituelle du lieu. Toutes ces personnes-là, ils envisagent leur fréquentation de la culture, la fréquentation des institutions à l'endroit où leur parole pourrait compter, où ils pourraient y faire autre chose que simplement être un spectateur acheteur de billets finalement, mais quelqu'un qui peut contribuer aussi à l'action publique en apportant sa voix, en étant écouté et en étant reconnu. Donc on fait ce travail-là aussi pour ouvrir, redévelopper autrement le contact à la population.
C'est bien que ce soit important pour vous que le spectateur ne soit pas vraiment passif de ce qu'il est en train de regarder, mais qu'il soit aussi actif de la vie de l'opéra. Je sais qu'en regardant sur votre site internet, on voit beaucoup de visites des décors, de visites des répétitions. On sait également que vous avez aussi des programmes de cours de danse ou de cours de chant, etc. Donc je pense que c'est important aussi pour que le public se sente vraiment engagé dans la vie de l'opéra et qu'il soit pas juste qu'il rentre, qu'il voit le spectacle et qu'il sorte. Je pense que c'est important. On voulait vous poser une dernière question par rapport à l'accessibilité du public, parce que on sait que y a certaines personnes qui peuvent être handicapées moteurs ou alors malvoyants en situation de surdité, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des dispositifs que vous avez mis en place pour que le public puisse assister au spectacle ?
Il y a plusieurs à l'endroit de l'accessibilité, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet qui touche au bâtiment. Et là, nous sommes d'une certaine façon locataires du bâtiment qui appartient à la ville. Donc la mise en conformité d'accessibilité du bâtiment, c'est la responsabilité du propriétaire, donc de la ville. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites, mais il est clair qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que ça pourra se mettre véritablement en ordre de marche correcte que lorsque des travaux d'importance seront engagés, parce qu'il faut toucher à la structure, à des accès, pour mettre des ascenseurs, pour mettre un certain nombre de choses. Donc il y a des choses de fait, mais on a encore beaucoup à faire de ce point de vue-là. Ensuite, il y a l'accessibilité au handicap sensoriel. Donc ça, on y travaille quand même depuis maintenant, depuis une quinzaine d'années. Donc en facilitant grandement l'accessibilité pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, mais aussi pour les personnes qui ont des déficiences auditives, en utilisant des dispositifs, à la fois des dispositifs techniques, qui aide audiodescription, boucle magnétique, gilet vibrant, etc. Mais aussi en faisant un grand accompagnement personnalisé, un accompagnement de personne à personne. La prise en compte de la différence du handicap, elle est aussi dans le contact humain, en fait. Et puis enfin, il y a tout le spectre du handicap, un handicap invisible. Et ça, on y travaille énormément dans nos projets vocaux inclusifs, l'Opéra Kids, Un Chant, Une Chance, Les Voix Bleues, puisque là, aujourd'hui, par exemple chez les adultes d'Un Chant, Une Chance, on a à peu près 40% des personnes qui sont avec nous qui ont soit des situations de handicap, soit sont dans des rémissions de maladies graves, soit ont aussi, disons, dans le spectre du fonctionnement de type autistique. Donc on les prend vraiment bien en compte, pas simplement pour assister au spectacle, mais aussi pour les considérer, pour pouvoir être proche. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que on fait plutôt, on remplit bien notre mission, ou en tout cas, on essaie de faire le maximum. Et puis, actuellement, depuis maintenant quelques mois, on travaille sur un plan handicap. On va pas l'appeler comme ça d'ailleurs. Disons la prise en compte globalement de la sphère handicap dans notre maison, pour essayer de faire en sorte que ces pans que je vous ai cités, sur lesquels on est déjà présent, qui ont tendance un peu à être gérés un peu séparément, accessibilité à la salle, au spectacle, avec les différentes formes de handicap, et puis de l'autre côté la prise en compte dans de la pratique artistique personnelle de certaines formes de handicap, et puis il y a aussi la question de la prise en compte du handicap dans la politique de ressources humaines de recrutement de l'opéra. Donc on mène un travail pour constituer en fait un plan qui va s'appeler à l'Opéra des Cap, et donc qui va faire en sorte que les bonnes pratiques des uns et des autres puissent se transférer dans toutes les modalités, et puis aussi un plan sur lequel on associe en fait un certain nombre de partenaires qui sont eux-mêmes pas dans la maison, mais qui sont les associations qui accompagnent les personnes, des professionnels qui travaillent sur les dispositifs de prise en compte du handicap, notamment lorsqu'il s'agit d'un handicap de physique et qui nécessite des adaptations de poste importantes. Donc on travaille là-dessus. Donc on a fait une première étape ça a été menée par une équipe d'étudiants de l'IAE qui a fait d'abord tout un bilan pendant plusieurs mois. Ici, on va commencer à le mettre en place. Alors il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais le fait de raisonner globalement sur cette question, ça nous a fait aussi avancer un peu, je dirais, dans l'esprit. Au fond, par exemple sur les questions d'adaptation de poste, mais c'est vrai que on finit par se dire, si au fond, à terme, bien entendu, ce sont que des ambitions à long terme, mais ça change quand même un peu la donne, si au fond tous les postes, chaque fois qu'on a un poste de travail, si ce poste de travail était pour tout le monde, quelle que soit la personne qui l'occupe, était pensé en fait pour pouvoir éventuellement prendre en compte toutes les formes de handicap physique, sensoriel, mode de fonctionnement différent, la question de l'adaptation des postes ne se poserait plus en fait. C'est-à-dire que au fond, plutôt que de dire on va adapter des postes à des personnes en situation de handicap, l'idée qui est nouvelle, c'est de dire finalement si toutes les conditions de travail étaient telles que en fait cette question ne se poserait plus, puisque chaque poste nouveau créé, chaque poste de travail, chaque situation prend en compte dès le départ en fait ces problématiques-là, ça fait pas de discrimination pour des personnes qui le sont, c'est-à-dire que quand on recrute une personne en situation de handicap, on n'est pas obligé de faire un travail d'adaptation sur le moment du poste, mais c'est de se dire que dans l'absolu, dans l'avenir, on va essayer de faire monter en exigence en fait poste de travail de telle sorte que on n'ait plus besoin franchement de se poser la question. Voilà, c'est retourner le problème dans l'autre sens. C'est un peu comme quand vous voulez féminiser les métiers techniques sur le plateau. Je pense que si vous montez là aussi les conditions de travail de telle sorte qu'elles soient favorables, rythme horaire, port de charge, aide, etc. Au fond, la question, que ce soit les hommes ou les femmes qui occupent le poste, ne se pose plus. Voilà, donc c'est un petit peu une autre façon de penser qui est en train d'émerger. Alors évidemment, qui pratiquement nécessite des très très gros moyens et une révolution dans les esprits. Mais au moins, on aura touché ça du doigt déjà dans la première phase de notre plan à l'Opéra TECAP.
Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose qui n'a pas forcément de rapport avec nos questions, mais est-ce que vous aviez envie de parler d'un certain pan de l'opéra ou...
Moi, j'ai envie de dire à vos auditeurs de venir, en fait. Particulièrement, je vais appuyer, puisque c'est en janvier, donc je vais appuyer sur celui-ci. On accueille un opéra en création. Alors, je sais bien que dès qu'on parle de création, ça fait toujours un peu peur aux gens. On se dit, oh là là, ça va être la musique contemporaine, ça va être compliqué, on va rien comprendre, ça va crier partout. Non, c'est pas franchement le cas. Donc cet opéra qui s'appelle Les Sentinelles et qui a été écrit et mis en scène pour le texte par une jeune metteuse en scène qu'on a déjà eu ici qui s'appelle Chloé Le Chat, et puis qui a été mis en musique par aussi une jeune femme qui s'appelle Clara Olivares, traite d'un sujet très très intéressant qui est les enfants doués, la douance, qui ont un fonctionnement aussi parfois atypique. Et puis, comment ces enfants se retrouvent aujourd'hui dans notre société moderne, dans les relations amoureuses qui s'entrecroisent dans tous les sens, où les cartes sont toujours rebattues, polyamour, etc. Comment les enfants sont promenés, en fait, par les adultes, alors que les adultes, en fait, devraient être des sentinelles, justement, pour les préserver. Comment, au fond, les enfants se retrouvent complètement mêlés, instrumentalisés dans les relations des adultes. Et cet opéra est vraiment assez pertinent, je trouve, sur la manière dont il traite le sujet. Donc, j'invite vos auditrices et auditeurs à venir y assister. Je précise que c'est un opéra qui est assez court, en temps, à 1h20, et que le sujet est assez bien amené, je trouve, entre ces quatre femmes, en fait, un couple féminin et une autre femme qui élève seule sa fille, qui est donc hyper douée. On voit aussi à la fois la question de la famille monoparentale avec tout ce qu'elle suppose parfois de difficultés, et puis comment cette femme qui va se sentir attirée par une de ses voisines à côté, donc d'un seul coup il y a un couple à trois qui va s'organiser, l'enfant qui est une jeune ado est complètement brinque-ballé dans cette histoire. Comme souvent, les enfants qui sont hyper doués, on les appelle aussi les enfants sentinelles, parce qu'ils ont une capacité en fait à anticiper dans leur mode de fonctionnement à anticiper, je dirais, les problèmes qui vont arriver. Et là, c'est un peu ce qui se passe dans ce spectacle. Et elle voit où est-ce que ça va l'amener, en fait. Où est-ce qu'on va aller avec ça? Donc elle est un peu évidemment perturbée par ce qui se passe entre sa maman et puis ses deux autres femmes. Je trouve que c'est fait aussi avec beaucoup de délicatesse et en même temps c'est puissant comme message. Venez à l'opéra parce que l'opéra il s'intéresse aussi au sujet de notre société et il prend en compte aussi des situations un peu particulières. C'est pas des sujets qui sont particulièrement traités dans le répertoire, hein, ça, la question des familles monoparentales, la question du polyamour, la question des enfants hyper doués et comment tout ça va s'articuler en fait. Voilà, donc Les Sentinelles c'est au mois de janvier.
Bah, je sais pas si ça a marché sur les auditeurs, mais moi ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Mais écoutez, merci beaucoup Alain Mercier d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. On espère que ça aura permis aux auditeurs et aux auditrices d'en apprendre plus sur l'opéra et sur les actions de l'opéra. N'hésitez pas à aller sur le site www.opéralimoges.fr pour plus d'informations sur les spectacles et éventuellement réserver vos places. Et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau magazine culturel.
Merci.
Merci à vous.
C'était le magazine culturel sur RTF. Retrouvez-nous également sur internet rtflimoges.com.